Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La conversation. Au programme, l'humain n'est pas fait pour vivre dans le froid. Voici comment il s'est adapté et fort bien. Et notre microbiote intestinal exerce-t-il une influence sur notre santé et notre espérance de vie? Bonne écoute.
L'humain n'est pas fait pour vivre dans le froid. Voici comment il s'est adapté, et fort bien. Un texte de Laura Bock et Kyoko Yamaguchi, paru le 26 janvier 2023 dans La Conversation. L'être humain est une espèce tropicale. Nous avons vécu dans des climats chauds pendant la majeure partie de notre évolution, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous sommes nombreux à passer l'hiver en rêvant à l'été. Toutes les espèces de singes habitent des régions tropicales. Les plus anciens fossiles connus de la lignée humaine, homininés, proviennent d'Afrique centrale et orientale. Les homininés qui se sont déplacés vers le nord sous des latitudes plus élevées ont rencontré des températures glaciales, des jours plus courts qui réduisaient le temps pour chercher de la nourriture, de la neige qui rendait la chasse plus difficile et un vent glacial qui accentuait la perte de chaleur de leur corps. Compte tenu de sa capacité limitée d'adaptation au froid, comment se fait-il que notre espèce soit devenue dominante non seulement dans les régions chaudes de nos ancêtres, mais aussi partout sur la planète? La réponse réside dans notre habileté à développer des solutions culturelles complexes pour relever les défis de la vie. Les premiers signes de la présence d'homininés en Europe du Nord ont été découverts à Appisburg, dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre. Il s'agit d'empreintes de pas et d'outils en pierre vieux de 900 000 ans. À cette époque, Appisburg était une région de forêts de conifères aux hivers froids, comme le sud de la Scandinavie aujourd'hui. Il existe peu de preuves que les homininés de Appisburg sont restés longtemps sur le site, ce qui laisse penser qu'ils n'ont pas eu le temps de s'y adapter physiquement. La façon dont ces homininés ont survécu aux conditions difficiles si différentes de celles de leurs terres ancestrales d'Afrique demeure un mystère. Il n'y a pas de grottes dans la région, ni de traces d'abris. Les artefacts de Appisburg sont simples et ne témoignent d'aucune technologie complexe. Les preuves de l'utilisation de feux de camp à cette époque sont controversées. Les outils permettant de confectionner des vêtements ajustés et résistants aux intempéries n'apparaissent en Europe occidentale que près de 850 000 ans plus tard. De nombreux animaux migrent pour éviter le froid saisonnier, mais les homininés de Appisburg auraient dû parcourir environ 800 km vers le sud pour un réel changement de climat. Il est difficile d'imaginer que les homininés ont pu survivre aux hivers du Norfolk sans feu ni vêtements chauds. Pourtant, le fait qu'ils ont vécu si loin au nord signifie qu'ils ont dû trouver un moyen de survivre au froid. Alors, qui sait ce que les archéologues découvriront à l'avenir? Les chasseurs de Box Grove. Les sites de peuplement plus récents, comme celui de Box Grove dans le West Sussex, dans le sud de l'Angleterre, offrent davantage d'indices sur la façon dont nos ancêtres ont survécu au climat nordique. le site de Box Grove, date d'il y a près de 500 000 ans, une des périodes les plus froides de l'histoire de l'humanité. De nombreuses preuves, comme des marques de coupure sur des os ou une omoplate de cheval qu'on pense avoir été percée par une lance en bois, attestent que ces homininés chassaient des animaux. Ces découvertes concordent avec les études menées sur des chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui qui montrent que les habitants des régions froides dépendent davantage des proies animales que leurs semblables des régions chaudes. La viande contient les calories et les graisses nécessaires pour affronter le froid. Vous écoutez, l'humain n'est pas fait pour vivre dans le froid. Voici comment il s'est adapté, et fort bien, un texte de Laura Bock et Kyoko Yamaguchi, paru le 26 janvier 2023 dans La Conversation. Un tibia d'homininé fossilisé trouvé à Box Grove est plus robuste que celui des humains actuels, ce qui suggère qu'il appartenait à un homininé grand et trapu. Un corps volumineux, avec des membres relativement courts, réduit la perte de chaleur en minimisant la surface. La meilleure silhouette pour éviter la perte de chaleur étant une sphère, les animaux et les humains des climats froids se rapprochent le plus possible de cette forme. Nous avons également des preuves de l'existence de feux de camp à cette époque. Spécialiste des climats froids. Les Néandertaliens, qui vivaient en Eurasie il y a environ 400 000 à 40 000 ans, habitaient des climats glaciaires. Par rapport à leurs ancêtres d'Afrique et à nous, ils avaient des membres courts et forts et des corps larges et musclés adaptés à la production et à la conservation de la chaleur. Pourtant, le visage proéminent et le nez large et saillant des Néandertaliens sont à l'opposé de ce que l'on pourrait imaginer être adapté à une période glaciaire. Comme les macaques japonais vivant dans des régions froides et les rats de laboratoire élevés dans des conditions froides, les humains des climats froids ont généralement un nez relativement haut et étroit et des pommettes larges et plates. La modélisation informatique des squelettes anciens nous indique que le nez de l'humain de Néandertal était plus efficace que celui de ses ancêtres des climats chauds pour conserver la chaleur et l'humidité. Il semble que la structure interne soit aussi importante que la taille globale du nez. Même avec leur physique adaptée au froid, les Néandertaliens avaient gardé des caractéristiques de leurs ancêtres tropicaux. Ainsi, ils n'avaient pas l'épaisse fourrure des autres mammifères de l'Europe glaciaire, comme le rhinocéros laineux ou le bœuf musqué. Ils ont plutôt développé une culture complexe. On possède des preuves archéologiques que les Néandertaliens confectionnaient des vêtements et des abris avec des peaux d'animaux. Des traces de cuisson et de l'utilisation du feu pour préparer de la colle à base d'écorce de bouleau pour fabriquer des outils montrent que l'humain de Néandertal avait une excellente maîtrise du feu. Des archéologues affirment, même si c'est controversé, que les ossements de Néandertaliens trouvés sur le site de Cima de los Huesos, dans le nord de l'Espagne, vieux de 400 000 ans, présentent des lésions causées par le ralentissement de leur métabolisme pour hiberner. Selon les chercheurs, ces os montrent des cycles de croissance interrompus et de guérison. Seules quelques espèces de primates hibernent, comme certains lémuriens du Madagascar et le Galago-Mo'oli, ainsi que le loris paresseux pygmé, du nord du Vietnam. Cela pourrait nous inciter à croire que les humains auraient la possibilité d'hiberner. Mais la plupart des espèces qui hibernent ont un petit corps, à quelques exceptions près, comme les ours. Les humains sont peut-être trop grands pour hiberner. Capacité d'adaptation. Les plus anciens fossiles de la lignée Homo sapiens datent d'il y a 300 000 ans au Maroc. Nous ne sommes sortis d'Afrique qu'il y a environ 60 000 ans pour ensuite coloniser toutes les régions du globe. Nous sommes donc relativement nouveaux dans la plupart des habitats où nous nous trouvons aujourd'hui. Au cours des milliers d'années qui se sont écoulées depuis, les personnes des régions froides se sont adaptées biologiquement à leur environnement, mais pas parfaitement. Un exemple bien connu de cette adaptation est que dans les régions peu ensoleillées, Homo sapiens a développé des teintes de peau claire qui permettent de mieux synthétiser la vitamine D. Les génomes des Inuits du Groenland montre une adaptation physiologique à un régime marin riche en graisse, bénéfique dans le froid. Des preuves plus directes proviennent de l'ADN d'un cheveu conservé dans le pergélisol au Groenland. Ce cheveu, vieux de 4000 ans, laisse entrevoir des modifications génétiques qui ont conduit à une forme corporelle trapue, maximisant la production et la rétention de chaleur, à l'instar de l'homininé de Box Grove, dont nous n'avons qu'un seul tibia. Notre héritage tropical fait en sorte que nous sommes toujours incapables de vivre dans des lieux froids sans concevoir des moyens pour affronter ce climat. Il suffit de penser au parka traditionnel des Inuits, qui offre une meilleure isolation que l'uniforme d'hiver de l'armée canadienne moderne. Notre capacité d'adaptation comportementale a été déterminante pour notre succès évolutif. Si on le compare aux autres primates, l'humain fait montre d'une moindre adaptation physique au climat. L'adaptation comportementale est plus rapide et plus flexible que l'adaptation biologique. Les êtres humains sont des champions de l'adaptation, ce qui leur permet d'habiter presque toutes les niches écologiques. C'était « L'humain n'est pas fait pour vivre dans le froid, voici comment il s'est adapté, et fort bien », un texte de Laura Bock et Kyoko Yamaguchi, paru le 26 janvier 2023 dans « La Conversation ». Notre microbiote intestinal exerce-t-il vraiment une influence sur notre santé et notre espérance de vie? Un texte de Éloi Gagnon et Benoît Arsenault, paru le 1er février 2023 dans La Conversation. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries et virus résidant dans notre intestin. Il est impliqué dans diverses fonctions, comme la digestion des aliments et la protection contre certaines pathogènes. Certains facteurs peuvent perturber le microbiote intestinal. On parle notamment de notre alimentation, de notre consommation d'alcool, de la prise d'antibiotiques et des maladies inflammatoires de l'intestin. Ces altérations nommées dysbioses sont associés à un large éventail de maladies chroniques. Dans la dernière décennie, les résultats de centaines d'études effectuées chez des modèles animaux ont proposé que la dysbiose intestinale pourrait influencer plusieurs perturbations métaboliques. De plus, chez des rongeurs, l'implantation de certaines bactéries pourrait influencer le poids et le profil métabolique. De plus, le transfert du microbiote intestinal d'une souris mince à une souris de poids élevé lui permettrait de perdre du poids. Est-ce trop beau pour être vrai? Respectivement étudiant au doctorat et professeur titulaire au département de médecine de l'Université Laval, notre objectif est d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour les maladies chroniques et l'espérance de vie en santé avec une approche basée sur l'épidémiologie génétique. Ce court article vise à résumer et à contextualiser nos récents travaux de recherche sur le microbiote intestinal. L'importance d'un lien de causalité. Des scientifiques ont suggéré que la consommation de certains aliments, comme les fibres alimentaires, les fruits riches en antioxydants et la viande rouge, auraient un effet sur le microbiote intestinal. Certains avancent même que le microbiote pourrait devenir une cible thérapeutique pour la prévention ou le traitement de certaines maladies chroniques. Or, pour que le microbiote devienne une cible thérapeutique d'intérêt, il est primordial d'établir un lien de causalité entre les caractéristiques du microbiote intestinal et les maladies chroniques. En effet, un lien de causalité suggère que la modification du microbiote diminuerait le risque de développer une maladie. Même si plusieurs études observationnelles non expérimentales chez l'humain ont identifié des liens statistiques entre divers marqueurs du microbiote intestinal et les maladies chroniques, le lien de causalité n'est pas clairement établi. Par exemple, on ne sait pas si la dysbiose intestinale est la cause ou la conséquence d'une maladie, causalité inverse. On ne sait pas non plus si les deux seraient influencés par d'autres facteurs confondants qui seraient associés à la fois au microbiote intestinal et aux maladies chroniques. On pourrait penser, par exemple, à la qualité de notre alimentation, notre poids ou notre consommation d'alcool. Ainsi, l'objectif de nos travaux était de déterminer s'il existe bel et bien une relation directe et de cause à effet entre le microbiote intestinal et des marqueurs métaboliques comme le poids, 8 maladies chroniques et la longévité humaine à l'aide d'une approche génétique, la randomisation mendélienne. La randomisation mendélienne tente d'établir des liens de causalité à partir de données génétiques. Pour ce faire, la randomisation mendélienne utilise des variants génétiques, des changements fréquents dans la séquence de notre génome appelé polymorphisme nucléotidique, fortement associé à un facteur de risque, microbiote intestinal, pour établir un lien de causalité avec une variable dépendante, marqueur de santé et maladie, tel que décrit dans un récent article. Comme les variations de notre génome sont établies au moment de la formation de l'embryon et qu'elles demeurent stables au cours de notre vie, cette expérience de randomisation naturelle n'est pas sujette au biais de causalité inverse, puisque la présence de maladies n'influence pas notre code génétique. Elle n'est pas non plus sujette à l'effet des facteurs confondants, puisque les variations génétiques utilisées sont associées spécifiquement aux caractéristiques du microbiote intestinal. Nous avons inclus les données génétiques de quelques dizaines de milliers d'individus provenant de plusieurs cohortes. Nous avons identifié des variants génétiques associés à 10 métabolites fécaux et sanguins. Les métabolites inclus sont de petites molécules produites par le microbiote intestinal qui ont déjà été associées à la dysbiose intestinales et à certaines maladies. Nous avons aussi identifié les variants génétiques de dizaines de taxa microbiens, par exemple une espèce, un genre ou une famille de bactéries. Nous avons étudié 9 traits cardio-métaboliques, poids, pression artérielle, lipides sanguins, insuline, etc., ainsi que 8 maladies chroniques, la maladie d'Alzheimer, la dépression, le diabète de type 2, la maladie du foie gras, la maladie coronarienne athérosclérotique, les accidents vasculaires cérébraux, l'ostéoporose et l'insuffisance rénale. Nous avons également étudié l'effet de ces facteurs associés au microbiote intestinal sur l'espérance de vie en santé et la longévité. Vous écoutez, notre microbiote intestinal exerce-t-il vraiment une influence sur notre santé et notre espérance de vie? Un texte de Éloi Gagnon et Benoît Arsenault, paru le 1 février 2023, dans La Conversation. Nous avons émis l'hypothèse qu'à la lumière des données déjà publiées, un lien de causalité serait révélé entre la dysbiose intestinale et les maladies chroniques associées au vieillissement. Or, contrairement à notre hypothèse, cette analyse de randomisation mendélienne n'a pas démontré d'effets importants du microbiote intestinal sur les facteurs métaboliques et les maladies chroniques. Cette association entre certains paramètres microbiens et les maladies chroniques associées au vieillissement apparaissent comme potentiellement causales. Mais leur effet est faible et on ne peut exclure qu'elle soit le fruit du hasard. Dans l'ensemble, ces résultats n'offrent que peu d'appui à l'hypothèse selon laquelle le microbiote intestinal a un effet important sur notre poids, notre métabolisme et notre risque de développer des maladies chroniques. Des résultats qui appellent à la prudence. Ces résultats suggèrent que les associations précédemment observées pourraient ne pas être causales. Les associations pourraient être expliquées par les maladies elles-mêmes, biais de causalité inverse ou des facteurs confondants, biais de confusion, tels que l'alimentation, la prise de médicaments, l'usage de tabac, la santé métabolique ou autres. Ces résultats vont toutefois de pair avec les résultats de 4 récentes études cliniques randomisées montrant que le transfert du microbiote intestinal de personnes minces vers des personnes de poids élevé ne mène à aucune perte de poids ou amélioration significative du profil métabolique. La randomisation mendélienne est une méthode qui présente plusieurs avantages en comparaison avec les études observationnelles. Il faut toutefois contextualiser ces résultats. Il est tout à fait possible que les paramètres génétiques que nous avons utilisés pour prédire les métabolites et les espèces microbiennes associées à la dysbiose intestinale ne capturent pas entièrement la complexité du microbiote intestinal. Ce phénomène diminuerait notre capacité à identifier des associations significatives. Par conséquent, des études avec des échantillons de plus grande taille et avec une meilleure caractérisation du microbiote intestinal et de ses métabolites seront nécessaires pour déterminer si certaines bactéries intestinales jouent un rôle clé dans l'étiologie, étude des causes, des maladies chroniques et de la longévité. Même si l'impact de la dysbiose intestinale sur les maladies chroniques semble limitée, la santé intestinale est toutefois importante pour d'autres facettes de la santé humaine. Par exemple, le microbiote empêche d'autres bactéries néfastes de coloniser notre intestin. De plus, il permet de digérer certains nutriments, des fibres alimentaires par exemple, qui autrement seraient rejetées par notre organisme. Des thérapies qui modulent le microbiote intestinal ont récemment obtenu l'approbation des autorités de santé américaines pour la prévention des infections assez difficiles, une bactérie qui cause la diarrhée et d'autres maladies intestinales graves. Nos résultats, de même que les résultats d'études cliniques moins sujettes aux biais de causalité inverse et aux biais de facteurs confondants, ne supportent toutefois pas un effet important de la dysbiose intestinale sur les maladies chroniques. Ces résultats appuient que le potentiel du microbiote comme cible thérapeutique des maladies chroniques est, pour le moment, faible. Nous invitons les professionnels de santé et le grand public à faire preuve de prudence à l'égard des tests diagnostiques basés sur le microbiote intestinal pour diagnostiquer des problèmes de santé qui ne sont pas validés par les autorités de santé compétentes. Mais surtout, à éviter de recommander certaines interventions basées sur le simple fait que celles-ci influenceraient les paramètres du microbiote intestinal. C'était « Notre microbiote intestinal exerce-t-il vraiment une influence sur notre santé et notre espérance de vie? » Un texte de Éloi Gagnon et Benoît Arsenault, paru le 1er février 2023 dans La Conversation.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.